France Culture, 6h-7h, les petits matins, tout de suite les titres de l'actualité, Clara Lecoq-Réal.
Bonjour à tous. Des avions seront cloués au sol à partir de ce soir. Aigle Azur annonce l'annulation de tous ses vols. La compagnie aérienne française, spécialiste des liaisons entre l'Algérie et la France et en pleine crise financière, prévient ses clients. Les titulaires de billets ne pourront pas être dédommagés. Ils sont invités à contacter leur assurance ou leur assurant ou leur agence de voyage. Aigle Azur, qui emploie 1150 salariés, a jusqu'à lundi prochain pour trouver un repreneur avec une offre viable et ensuite ne pas être placé en liquidation judiciaire. Plutôt mourir au fond d'un fossé que de demander un report du Brexit. Voici les mots de Boris Johnson et son message très clair lancé hier, après avoir été contraint par un vote des députés de demander un nouveau délai à l'Union européenne. Nous devons sortir de l'Union le 31 octobre, martèle le Premier ministre britannique. Il espère toujours la tenue d'élections législatives anticipées. Sur les 9 pays qui abritent la forêt amazonienne, 4 se retrouvent aujourd'hui à Laetitia, la capitale colombienne de l'État d'Amazonas, pour sceller le pacte de Laetitia. Officiellement, c'est un sommet régional d'urgence qui a pour but d'unifier les visions sur les méthodes à employer en Amazonie. Et dans une moindre mesure en France aussi, des incendies se déclarent. Ils ont ravagé plusieurs centaines d'hectares dans le sud, l'ouest et le centre du pays, touchés par la sécheresse après un été caniculaire. 2 feux se sont notamment déclenchés hier soir aux portes de Marseille. Ils sont circonscrits ce matin. Une deuxième journée de discussion débute à Matignon ce vendredi autour de la réforme des retraites. Après la CFTC, la CFDT, FO et le MEDEF, le Premier ministre Édouard Philippe recevra aujourd'hui la CGT, la CFE-CGC et la CPME. Hier déjà, les premiers participants sont ressortis assez déçus de leur réunion. La discussion s'annonce très compliquée et prévient Laurent Berger de la CFDT. Et puis les particuliers employeurs devraient bientôt pouvoir toucher leur crédit d'impôt. Tous les mois, le gouvernement l'annonçait hier. Explication dans le journal de 6h30.
L'Esprit public est de retour ce dimanche pour décrypter l'actualité politique et géopolitique de la semaine, entre accords et désaccords, mais toujours en harmonie. Nos visiteurs du dimanche, Daniel Cohen, Sylvie Kaufmann, Dominique Schnapper et Bertrand Badi, plancheront sur la rentrée des populistes italiens et britanniques, chambrés par leur parlement, et sur les réformes françaises du moment, lycée et retraite. La réforme consensuelle est-elle un mythe?
L'Esprit public, Émilie Aubry, c'est dimanche à 11h et sur franceculture.fr.
C'est la rentrée à l'Auditorium de Radio France. Le 18 septembre, Berlioz, avec Marie-Nicole Lemieux, l'Orchestre National de France et Emmanuel Krivine. Le 20 septembre, Stravinsky, Ravel et Prokofiev, avec Nikolaï Louganski, l'Orchestre Philharmonique de Radio France et Nico Franck. Le 22 septembre, Carmina Burana de Karl Orff, avec l'Ensemble Stop, la Maîtrise et le Chœur de Radio France et Martina Batic. Entrez au cœur du concert. Réservation maisondelaradio.fr. Concert en partenariat avec la Biennale Paris 2019.
Ce vendredi matin sur France Culture, nous retrouvons Toufik Hakem, il est 6h03.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour tout le monde et bienvenue dans le Réveil culturel. Tous les vendredis, c'est l'actualité de la bande dessinée et aujourd'hui, je reçois Nil Antico et Grégoire Carlet, respectivement la scénariste et le dessinateur d'Ilité deux fois Arthur, un album de bande dessinée de plus de 150 pages édité par Dupuis dans la collection Air Libre. Le Réveil culturel est préparé avec la complicité de Corinne Amar, la réalisation de Vincent Abouchard, avec ce matin à la prise de son Delphine Baudet.
Le réveil culturel. Vendredi, bande dessinée.
Il était deux fois Arthur, donc. À ma gauche, Jack Arthur Johnson, premier champion de boxe noir américain. Et à ma droite, Arthur Cravan, le scandaleux et poète, et même boxeur, suisse ou anglo-suisse, neveu d'Oscar Wilde en tout cas, et dadaïste avant l'heure, deux aventuriers qui vont se retrouver à Barcelone au début du siècle dans un drôle de chassé-croisé, puisque l'un fuyait l'Amérique et l'autre voulait s'y exiler, et surtout autour d'un drôle de combat vendu comme le combat du siècle. Mais avant de développer l'histoire de cette rencontre et de ce match de boxe avec Nina Antico, la scénariste, s'il fallait décrire les deux protagonistes, Grégoire Carlet, bonjour. Vous qui les avez dessinés à votre manière, à coups de traits de pinceau et de plumes, mais sans doute après avoir visionné des photos, des documents, quelques films, parce qu'il y a quelques films des combats de Johnson.
Bonjour. Alors, pour les décrire succinctement, sont deux personnages déjà très grands. Cravant faisait plus de 2 mètres déjà. Johnson était aussi très très grand. Mais on a deux personnages très sculpturaux et très beaux, très dandys tous les deux aussi. Johnson, malgré son gabarit, avait vraiment beaucoup d'élégance quand même. Quand on le voit, c'était quelqu'un avec des épaules très larges, mais des jambes assez longues et fines. Il ressemblait pas du tout à une grosse machine à cogner comme on pourrait le penser. Et Cravant, lui, ressemble plus à un bonhomme en guimauve. Et je pense que c'est pas pour rien qu'il se cachait souvent sous un énorme manteau de fourrure. C'est un immense bonhomme, un petit peu désarticulé, plutôt maigrichon en fait. Et donc, ce sont deux personnages qui finalement ont tout de l'alter ego, ou plutôt du double infernal peut-être aussi.
Puisque ouais. Le noir se rêvait blanc et le blanc voulait être noir.
Se rêver noir, évidemment, ouais. Ouais, ouais.
Comment définir vos dessins? Ils sont semi-réalistes?
Oui, on peut dire ça. Après, je privilégie aussi quand même beaucoup une touche expressionniste. Comme on a affaire à beaucoup de... C'est une bande dessinée, je pense, avec un rythme assez élevé, assez rapide. Évidemment, il s'agit de personnages historiques. Il faut rester proche d'un certain... Enfin, il faut rester proche des origines. Mais... J'ai aussi voulu quand même par une touche assez vive essayer de retranscrire l'énergie qui pouvait habiter ces personnages-là.
Il était deux fois Arthur, c'est aussi une bande dessinée avec un troisième personnage.
Exactement.
S'il fallait parler de ce singe.
Alors Bobo, c'était un des nombreux singes qui s'appelait Consul, qui avait été élevé au début du siècle. Et qu'on trouvait que c'était des espèces de jouets de bourgeois ou qui faisaient les pitres dans des zoos. C'était des singes savants, il y en avait plusieurs en fait. Ils s'appelaient tous consuls. Et donc Bobo qui va être une espèce de... Bon, déjà c'est... je sais pas si je peux le spoiler... Oui, enfin je vais spoiler un peu le bouquin, mais c'est la voix off du livre. Il fait office. Il a plusieurs rôles. Il joue plusieurs rôles. Il a un rôle de passeur entre les personnages, un rôle de charnière, et aussi un rôle de Deus ex machina. Enfin, de voilà, c'est aussi par lui que le dénouement va s'amener dans le livre, dans le récit.
Et pour dessiner cette histoire, il était deux fois Arthur. Pour revenir sur Jack Arthur Johnson, le premier champion de boxe noir américain et d'Arthur Cravant, vous vous êtes vraiment imprégné de leur histoire, parce que ce que raconte en fait la bande dessinée, c'est une partie de la vie de ces deux hommes. Donc ça commence par la vie de Jack Arthur Johnson, ensuite c'est la vie d'Arthur Cravant, et au milieu c'est le moment où ils vont se rencontrer pour un drôle de match, pour un drôle de deal. Il fallait connaître toute l'histoire des deux personnages.
Ah, c'est une histoire tellement... Enfin, ils ont tous les deux une histoire tellement à la fois brève mais riche, qui fait qu'on peut pas forcément maîtriser évidemment tous les paramètres, et même si on n'a pas tout raconté avec Nin, on s'est plongé avec beaucoup d'ardeur dans les recherches, dans les lectures, et puis aussi pour ramasser une bonne source iconographique aussi, moi, pour mes besoins de dessin, évidemment, puisqu'il s'agit de faits qui se sont déroulés, donc il fallait quand même coller au plus près à l'histoire et à l'iconographie, au visuel, à l'esthétique.
In the 11th round, Johnson smashes Ketchel all over the ring. Now round 12, Colma, California, October 16th, 1909. Johnson is down! It was a terrific right to the jaw! The referee's count seems fast. Johnson's up at 8. He's mad. Ketchel's excited, comes in wide open, takes a right square in the jaw. They're both down. Johnson gets up and the referee counts over Ketchel.
Et on vous retrouve, l'Identico, pour cette rentrée, mais cette fois-ci, vous n'êtes pas dessinatrice. Vous êtes scénariste d'une bande dessinée qui a pour titre « Il était deux fois Arthur ».
Il était deux fois Arthur, ça parle de Jack Johnson, qui est le premier champion du monde noir
de
boxeur,
boxe, ouais,
à avoir, poids lourd, à avoir remporté le titre et avoir battu un blanc. Ça, c'était en 1910, donc il a vraiment défrayé la chronique. C'est un modèle, par exemple, pour Mohamed Ali. Et Arthur Cravan, c'est un boxeur amateur qui était surtout poète, insolent. L'insolence, ils ont vraiment ça en commun, et une liberté de ton, une liberté de vie qui a fait qu'ils se sont croisés pour un match mythique en 1916 à Barcelone. Et moi, j'en fais le pilier de mon livre. En fait, c'est ça qui m'a donné envie de raconter leur histoire, parce qu'ils sont connus séparément, ces deux géants. Et ils sont connus pour ce match à Barcelone, qui était un peu considéré comme une performance, au sens que c'était presque un match truqué entre un vrai champion du monde et une espèce de boxeur un peu autoproclamé. Et il leur a permis à tous les deux de gagner de l'argent pour fuir leur continent. Jack Johnson fuit les États-Unis parce qu'il allait faire de la prison. On avait fait tomber la loi Mann pour l'incriminer parce qu'il sortait avec des blanches, il les épousait, et on avait trouvé cette loi qui interdisait le transport des prostituées d'un État à un autre pour le faire tomber. Donc il a fui les États-Unis pour l'Europe. Et Arthur Cravan, lui, voulait fuir l'Europe pour ne pas être soldat pendant la Première Guerre. Et donc, mon livre, j'ai décidé qu'au milieu, il y aurait ce match entre deux, que la première partie serait celle de Jack Johnson, pardon, et qu'ensuite, après le match, on repartirait aux États-Unis avec Arthur Cravan. Pourquoi cette histoire ? Eh bien, c'est deux hommes qui parlent d'une quête de liberté, deux hommes qu'on peut considérer comme très égoïstes, mais qui ont beaucoup influencé les gens à leur façon. Et j'aimais bien le procédé narratif qui, pour moi je le synthétise comme ça. C'est en gros Jack Johnson, un noir qui se prenait pour un blanc, et Arthur Cravan, un blanc qui se prenait pour un noir. Et vraiment, pour moi, ils interrogent... Il y a aussi un personnage de chimpanzé qui est très important dans le livre et qui fait le lien entre deux. Et les chimpanzés qui étaient domestiqués à cette époque-là et qu'on sortait de leur jungle pour ensuite les mettre sur des scènes de théâtre comme aux Folies Bergères, pour ensuite les foutre aux eaux et qui crevaient derrière les barreaux et qui savaient plus du tout qui ils étaient. Et moi, vraiment le but avec cette bande dessinée, c'était d'interroger deux hommes qui ont écarté les barreaux, quoi, qui sont sortis des cases et qui n'ont pas voulu correspondre à la vie qu'on attendait qu'ils mènent.
Comment êtes-vous arrivé à cette histoire, l'Identico?
Eh bien, je suis allée au Mexique pour faire une petite résidence, et on m'a offert un livre de Patrick Deville, Villa, dans lequel il parlait, l'auteur Patrick Deville, de trajectoire autant de Trotsky, de Frida Kahlo, enfin de tout l'intelligentsia intellectuelle et artistique qui rôdait au Mexique à cette époque-là, au début du XXe siècle. Et il y avait des passages sur Arthur Cravan. Et parallèlement, Jack Johnson, comme j'ai fait un peu de boxe, alors tout à fait en amateur, hein, mais ça m'intéresse un petit peu, la boxe. Et Jack Johnson est très connu. Il a vraiment marqué l'histoire du sport et l'histoire globale, quoi, parce qu'il a été une icône pour les Noirs qui se sont pour la première fois sentis valorisés. La boxe était vraiment le seul sport et le seul moyen d'émerger à cette époque-là. Pour les pauvres, pour les noirs, pour les mexicains, pour
c'est la première fois que vous vous intéressez aux hommes.
Oui, c'est vrai. C'est la première fois. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que je l'ai pas dessiné. Par contre, c'est parce que je savais que j'avais moins de. J'adore regarder ces hommes-là, les photographies. Quand on les voit, on a envie de les dessiner. Mais je savais que je serais pas la meilleure personne pour le faire.
Comment on le sait, ça?
Comment on le sait? Bah, c'est très simple, hein. C'est comme de savoir si on aime cuisiner ou... Je parle beaucoup de cuisine, d'ailleurs. Pourtant, j'aime pas trop ça. Mais j'avais aussi très envie, ça vient aussi de là, très envie de faire du scénario. En fait, moi, c'est quand même la partie du travail que je trouve génial en bande dessinée. Et finalement, le dessin est une finalité pour être lu, que j'essaye de faire au mieux pour avoir moi-même envie de lire mes histoires. Mais là, je savais que j'avais envie de tester cet exercice et ça m'a vraiment beaucoup plu. Et puis de travailler avec Grégoire aussi, ça a été...
C'est vous qui avez choisi Grégoire oui. Carlet pour dessiner
oui,
cette
en
histoire?
Oui, on est amis, on était en atelier ensemble quand on était à Paris. Maintenant, on a déménagé respectivement, lui à Strasbourg et moi à Marseille. Mais on se connaissait bien. Il m'avait vu commencer à réfléchir à cette bande dessinée il y a 7 ans, quelque chose comme ça, je lui en avais parlé. Et voilà, le temps que certains projets se règlent, enfin se terminent pour lui comme pour moi, j'étais sûre que son trait allait magnifier l'histoire, et c'est le cas.
Et vous lui avez donné un scénario avec des indications pour tout ce qui est découpage,
un storyboard.
Ouais. Un storyboard.
Aussi, ouais. Bon. Mais qu'il a vraiment sublimé, parce que moi je donnais pas beaucoup de place au décor, je dessinais beaucoup les personnages et les dialogues dans les cases, enfin c'était surtout là que jouait le découpage, mais lui il a vraiment, voilà, il s'est libéré de ça aussi, quoi. C'était la base sur laquelle il se lançait.
S'il n'y avait pas ce premier long métrage à réaliser et que vous venez de réaliser, Playlist, Lynn Antico, vous auriez dessiné, il était deux fois Arthur?
Non. Non,
en tant que ça.
Je sais quel prochain livre j'ai envie de faire tout seul, par exemple, mais
ce serait quoi?
Et c'est un livre qui va se passer en Italie, en Sicile et à Naples, qui va s'appeler Madone et Putain.
D'accord. Donc,
là,
donc avec
j'ai
des
envie
femmes,
de dessiner.
Parce que ce sont
des madones, des putains, c'est pour moi.
Merci, Lynn Antico.
Merci.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Ce soir, il prendra les 400 coups. À ta chute ou à sa perte, les paris vont doubler. Être une star à la sueur de son cœur, le corps marqué par l'absence de la peur. Il s'agit pas de chats violents, juste des poids lourds dans une danse violente. Prix Pulitzer, l'expression corporelle, une collision de bulldozer, un triple accident de char d'assaut. Car il va falloir que tombe l'un de ces deux garçons ce soir. Ce soir, l'un de nous deux doit tomber en public, depuis ton visage sur mes miroirs. Couche-toi vite, j'ai une histoire à fonder, cela implique que ce soir, l'un de nous deux doit tomber en public, depuis ton visage sur mes miroirs. Couche-toi vite, j'ai une histoire à fonder, cela implique que ce soir. Les vrais fous se font pas interner, ils rêvent les yeux ouverts, poings fermés. De toute façon, y a pas de sous-métier, encore moins celui de champion du monde entier. Tellement ne savent pas, quand t'es seul sur le ring, j'en ai vu dans ce cas, leurs jeans sentaient l'urine. La vie est ironique, s'échapper des ruelles pour vivre de duels. À la fin, y'aura qu'un type à l'horizontale, le respect mutuel. Mais ce soir, l'un de nous deux doit tomber en public, depuis ton visage sur mes miroirs. Couche-toi vite, j'ai une histoire à fonder, cela implique que ce soir. L'un de nous deux doit tomber en public, depuis ton visage sur mes miroirs. Couche-toi vite, j'ai une histoire à fonder, cela implique que ce soir. La tête haute, le corps aéroporté.
Il était deux fois Arthur, c'est édité dans la collection Air Libre, un scénario de Lynn Antico, avec les dessins de Grégoire Carlet. Vous vous connaissez bien sûr depuis longtemps,
ouais.
Puisque ce projet, comme on vient de l'entendre, ce projet, ça faisait des années que Lynn Antico le laissait germer. Vous avez décidé d'opter pour un noir et blanc pour raconter cette histoire, pourquoi?
Alors en fait, je crois que dans mes souvenirs, c'était plutôt Lynn qui y tenait. Moi, j'étais assez ouvert à travailler la couleur, mais en fait, le consensus a été assez vite tranché. Enfin, on a assez vite trouvé un consensus sur le noir et blanc. Après, je pense que ça colle bien à l'esthétique, au ton, surtout aussi au ton de Nine qu'elle a insufflé au personnage. À l'histoire, à l'ambiance.
La bande dessinée laisse une belle part au combat de boxe.
C'est assez drôle quand on regardait. Alors, ce qui est assez fou, c'est que les matchs de Johnson ont souvent été filmés. C'est peut-être les premières compétitions sportives, d'ailleurs, qui ont été filmées, qui ont été portées sur la pellicule. Et on en trouve, c'est assez touchant de voir, en fait, de le voir. Et on se rend compte que la boxe de l'époque n'avait pas grand-chose à voir aussi avec la boxe d'aujourd'hui. Donc, c'est pas du tout la même gestuelle, c'est pas les mêmes corps, c'est pas c'est pas les mêmes mouvements, il a fallu plutôt, enfin évidemment j'ai aussi regardé des choses beaucoup plus contemporaines, mais l'iconographie de l'époque sur Johnson est assez riche, donc ça m'a facilité la tâche.
Vous multipliez les pleines pages, oui. Pleines doubles pages.
Alors il a fallu aussi que pour pas m'ennuyer, puis pour pas ennuyer le lecteur, que j'essaye de divers choix, que je prenne, aller dans différents sens pour direction pour la mise en page, parce que après c'est surtout la première partie du bouquin où on trouve beaucoup de matchs de boxe avec Johnson. Après dans la deuxième partie on n'en trouve quasiment plus, et donc évidemment moi pour pas ennuyer le lecteur, il a fallu que je multiplie les tentatives de cadrage et de mise en scène. Surtout c'est du travail de mise en scène quoi, pour varier les approches quoi.
Bon, le fait de travailler à partir d'un storyboard de la scénariste qui par ailleurs est dessinatrice, donc c'est contraignant ou pas?
Non, en fait c'était pas contraignant dans la mesure où on s'était mis assez vite d'accord, enfin tout de suite, sur le fait que c'était pas que j'avais pas besoin de me tenir à la lettre au découpage qu'elle m'avait donné. C'était un découpage indicatif pour me donner les scènes qui devaient rentrer dans chaque planche. Après, en ce qui concerne vraiment la mise en page, les cadrages, le découpage, là, j'étais libre de faire un petit peu ce que je voulais, quoi. Elle avait fait un découpage assez classique en trois bandes, et on va dire à titre indicatif, et ça m'a permis moi après de broder autour. Quand c'était pas nécessaire, je gardais son découpage s'il était justifié. Et c'était un découpage aussi, une mise en scène assez proche des personnages. Et moi, j'aime bien m'amuser aussi dans les décors, donc dès que j'ai pu un petit peu ouvrir les cases pour y mettre plus de décors, un peu plus de choses pour varier aussi la lecture, j'essaie de le faire au maximum.
Et quel est votre rapport maintenant aux deux personnages que vous avez dessinés, qui ont existé, dont la vie a été revue par la scénariste Nina Antico? Vous pensez quoi de Jacques Arthur Johnson? Vous pensez quoi d'Arthur Cravant?
Cravant, lui, c'est quelqu'un que je connaissais un petit peu, mais pas beaucoup plus que ça quand même. Et il est quand même, il baigne dans une période d'art moderne, donc ce qu'on appelle, disons, l'art moderne à la fin du 19e, début 20e, qui est vraiment importante. Et moi j'aime beaucoup la peinture et toute la peinture de cette période-là. Et c'est quelqu'un qu'on retrouve après dans d'autres choses, dans plein de lectures, dans des catalogues d'expos sur d'autres choses, sur d'autres peintres. J'ai vu il y a plein de liens. Ça permet, Cravant permet de faire pas mal de ponts entre les différentes disciplines de l'époque, ce qui allait du symbolisme au dada. Et ça a été tellement riche. Donc moi, c'est un personnage qui me fascine aussi pour ça. Et on pourrait croire que c'est un peu un trublion on pourrait peut-être penser que c'est une coquille vide qui avait envie juste d'être sur le devant de la scène. Mais après, quand on lit ses poèmes, on se rend compte qu'il y avait une réelle profondeur dans le personnage aussi, quand même.
Et Jacques Arthur Johnson?
Donc lui, je le connaissais juste de nom. Je savais ce qu'il était. Et c'est quelqu'un qui m'avait tout de suite aussi vachement branché par rapport peut-être à l'iconographie qu'on pouvait représenter de l'Amérique de l'époque aussi.
L'Amérique du début du XXe siècle.
Du début XXe, donc c'est vraiment juste la fin de l'abolition, enfin le début de l'abolition de l'esclavage, de l'esclavagisme, mais le début des lois de ségrégation. Je pense pas que, c'est ce qui est dit dans le livre, c'est que Johnson se battait pas vraiment pour la cause des Noirs, évidemment, parce que de toute façon, à l'époque, ça aurait été très dangereux d'affirmer, une telle cause aux yeux de tout le monde. Mais c'est un personnage.
Mais il était aussi individualiste que Arthur Cravant.
Exactement, c'était un personnage tout autant individualiste. Et après, ce qui est génial avec lui, c'est comme il adorait se prendre en photo et rouler dans des grosses voitures. Il y a une iconographie assez riche sur le personnage. On trouve beaucoup de choses. C'est assez émouvant de voir.
Et au détour de cette histoire entre les deux Arthur, on apprend que Jack London n'a pas été très tendre vis-à-vis de Jack Arthur Johnson.
Ouais, grosse déception.
Ah oui, c'est là, en lisant votre bande dessinée. Il était à la limite raciste, non?
Pas à la limite. Hein. Non. Après, je pense que c'est là un reflet de son époque, de l'Amérique aussi de l'époque. Mais c'est vrai que ça a tout un pan de mon enfance qui s'est écroulé quand j'ai découvert ça. Ouais. Et il a été très très, il a eu des mots vraiment horribles et très très durs et très, qui exprimaient un gros racisme, ouais, c'est clair. Mais c'est pas le seul, hein. Il y en avait, enfin, de toute façon, toute l'Amérique. Quand même, ce personnage de Jack Johnson a eu quasiment un pays entier sur le dos pendant plusieurs années. C'était l'homme à abattre numéro un aux États-Unis, quoi. Ils ont tout fait pour le destituer, en fait.
Mais pas seulement parce qu'il était champion, parce qu'il osait avoir des histoires d'amour ouais. avec des femmes blanches.
Oui, oui. Mais c'est comme ça qu'il s'est fait pincer pour on l'a accusé de proxénétisme alors qu'il était marié avec sa femme quoi. Et en passant d'un état à l'autre, on a invoqué une obscure loi du Mann Act sur la traite des blanches, enfin un truc très tiré par les cheveux. Et bon, bref, ça a suffi puisque tout le monde attendait que ça pour le faire couler. Et donc c'est pour ça qu'il a fui. S'il était resté aux États-Unis, il devait être coupé d'un an de prison. Et c'est comme ça qu'on le retrouve à Barcelone après, sur le match avec Raven.
Le fameux match.
Oui.
Le fameux match. J'en dirai pas plus, hein. C'est à propos d'Il était deux fois Arthur, cette bande dessinée qui sort dans la collection Air Libre de chez Dupuis. Grégoire Carlet, comme vous êtes là, ce serait bien de résumer un peu votre vie, hein. Comment résumer un peu votre parcours à ceux qui n'ont pas lu vos premiers livres édités par l'association, qui n'ont pas lu Bakou? Comment vous êtes arrivé à la bande dessinée?
Moi, j'ai fait un parcours assez classique. J'ai fait la section illustration des Arts Déco, enfin de la IR maintenant, à l'époque on appelait ça les Arts Déco de Strasbourg. Et j'ai eu beaucoup de chance d'avoir Jean-Christophe Menu de l'association à l'époque dans mon jury de diplôme. Et en fait, du coup, on parlait de Bakou, c'était ma première bande dessinée, c'était mon projet de diplôme qui a été édité à l'association par la suite. Et c'est comme ça que, tout simplement, que ça a commencé.
Mais avec une envie de devenir auteur de bande dessinée?
Bien sûr, après je me voyais peut-être plus, à l'époque peut-être un peu plus touche à tout, aussi dans peut-être plus dans l'illustration, dans différentes choses. Et puis finalement, c'est-à-dire cette rencontre a donné tout de suite un départ et une direction en fait à ma carrière et à mon travail surtout, ouais, à mon travail d'auteur. Ouais.
Auteur, donc, oui. Auteur de bande dessinée.
C'est ça. Et bon, après, je suis parti à Paris quelques temps après mon diplôme. Et c'est dans les soirées à l'association que j'ai rencontré Nine et on s'est retrouvé dans le même atelier après avec les Requins Marteaux à Paris. Et donc, c'est à ce moment-là, moi, je travaillais sur mon avant-dernier album à l'association qui s'appelait Philoctète et les femmes. Et à ce moment-là, je me rappelle qu'elle avait déjà le pitch d'Édité deux fois Arthur et qu'elle en parlait déjà, quoi. Et bon, moi, j'avais d'autres projets que j'ai dû mener pendant ce temps. Et on s'est retrouvé à Marseille il y a 2 ans où j'ai travaillé sur un film, sur les décors d'un film d'animation où elle vit à Marseille maintenant, Nine. Et c'est là qu'elle venait de terminer son scénario et elle m'en a parlé. Et puis voilà, ça s'est fait comme ça, tout simplement.
Elle disait tout à l'heure, Nine Anticot, qu'elle était plus à l'aise à dessiner les femmes que les hommes. Diriez-vous la même chose, Grégoire Carlet, que vous préférez dessiner les hommes plutôt que les femmes?
Non, en fait, j'ai fait un album où il y a quasiment que des femmes. En fait, peut-être les femmes, donc c'était pas, je crois pas. Non, j'aime bien les deux.
Il n'y a pas de différence,
non? Non, enfin, si, il y en a beaucoup, mais... il s'agit de se trouver des tics personnels qui peuvent aussi s'éloigner des stéréotypes qu'on trouve habituellement pour se faire sa propre...
Autrement posé la question, est-ce que vous vous mettez à la place de tous les personnages que vous dessinez?
Souvent, quand on est en train de dessiner, on est vraiment... Enfin, moi, en tout cas, je me sens vraiment immergé dans... C'est presque un travail d'acteur où, quand le personnage parle, je me fais la voix dans la tête. C'est vrai que le fait de faire de la bande dessinée, ça rassemble plein de métiers, plein de métiers du cinéma. On est scénariste, on est dialoguiste et même acteur, puisqu'il y a pas mal de plans... où j'avais une idée en tête et je trouvais pas forcément de photo ou quoi et je me prenais en photo et donc on retrouve beaucoup mon corps dans cette bande dessinée.
Bah, vous êtes bien bâti, il faut le dire.
Non, moi
dire.
J'ai rajouté quand même pas mal de muscles autour, mais c'était juste pour certains plans. Ouais.
Et quand il s'agit de représenter une femme, se mettre dans la peau, dans la psychologie d'une femme.
Peut-être que c'est évidemment pas aussi évident. Mais si, il y a quand même quand je dessinais Mina Loy, quand elle parlait, j'avais quand même sa voix, en tout cas la voix que je m'étais imaginée de Mina Loy dans la tête au moment où je lui mettais une bulle au-dessus et que je la faisais parler.
Le réveil culturel de Tufik Hakem est à retrouver sur franceculture.fr.
Et on retrouve dans les bonnes librairies la dernière bande dessinée donc de Nine Anticot et de Grégoire Carlet. Je dis la dernière bande dessinée comme si vous en aviez fait d'autres. Non, c'est votre première collaboration. Il était deux fois Arthur sur ce match, ce drôle de match et cette drôle de rencontre entre ces deux Arthur, Arthur Cravan et Jacques Arthur Johnson. Merci d'être passé ce matin.
Eh bien, merci à vous. Merci.
Vous êtes sur France Culture. Dans un instant, les informations de 6h30. À suivre, le journal des idées de Jacques Munier et les enjeux internationaux de Julie Gacon. France Culture, l'esprit d'ouverture.
Un éclairage quotidien, les enjeux internationaux sur France Culture. Julie Gacon.
Chaque matin, un éclairage sur un fait de l'actualité internationale, le monde exploré à toutes ses échelles, du local au global. 10 minutes avec un chercheur, une chercheuse, pour renouveler notre regard sur le monde, resituer un événement dans sa perspective historique, évaluer sa portée et en imaginer l'avenir.
Des enjeux internationaux, de lundi à vendredi à 6h45 et sur franceculture.fr.
Vous êtes sur France Culture, le journal de 6h30 par Clara Lecoq-Réal. Bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. Les pays de l'Amazonie réussiront-ils à s'entendre pour préserver cette gigantesque forêt? 4 d'entre eux, dont le Brésil, organisent aujourd'hui un sommet. Même si les visions colombiennes et brésiliennes sont quasiment à l'opposé, vous l'entendrez. Nous donnerons la parole aussi à l'ancien ambassadeur britannique en France. Selon lui, Boris Johnson, le Premier ministre, est en train de perdre de nombreux points en refusant de négocier un accord sur le Brexit. Au Yémen, les États-Unis négocient avec les Houthis pour diminuer les tensions en pleine guerre avec l'Arabie Saoudite, doublée d'une guerre civile dans le pays. Explication à suivre. Et puis dans ce journal, nous vous expliquerons aussi quand et comment les particuliers employeurs en France pourront toucher leur crédit d'impôt sans décalage dans le temps. Sur les 9 pays qui se partagent la forêt amazonienne, la Colombie, le Pérou, l'Équateur et le Brésil se réunissent donc aujourd'hui à Leticia, la capitale colombienne de l'État d'Amazonas. Un sommet d'urgence pour protéger l'Amazonie en proie toujours à d'importants incendies, et ce depuis cet été. Un sommet aussi pour tenter d'unifier les visions de ces 4 pays, car chacun défend ses ambitions et ses opinions. Les politiques colombiennes et brésiliennes, par exemple, semblent aujourd'hui aux antipodes sur la question amazonienne, Olivier Poujade.
Les 80 000 départs de feu recensés au Brésil depuis le début de l'année ont fait tomber le masque de Jair Bolsonaro. Pour lui, l'Amazonie est une terre comme les autres, destinée à être exploitée. Depuis son arrivée au pouvoir, la déforestation a bondi de 67%. Son gouvernement a autorisé l'utilisation de 239 nouveaux pesticides. Jair Bolsonaro souhaite ouvrir les portes de l'Amazonie à l'agrobusiness et aux orpailleurs. Et surtout, qu'on ne vienne pas mettre le nez dans ses affaires. Une vision totalement opposée à celle d'Ivan Duque, le président colombien, à l'initiative de la réunion d'aujourd'hui. La Colombie est aussi l'une des principales victimes de la déforestation, mais depuis l'an dernier, l'Amazonie y est considérée comme un sujet de droit. Une décision de la Cour suprême qui oblige l'État à protéger, conserver et restaurer sa forêt. Ivan Duque plaidera en faveur de la création de mécanismes communs pour défendre l'Amazonie. Le Brésilien Bolsonaro, lui, n'apparaîtra dans cette réunion que par vidéoconférence, officiellement pour raisons médicales. Certains y verront sans doute une manière de prendre de haut l'initiative colombienne.
Jair Bolsonaro, qui a par ailleurs désigné hier un futur procureur général de la République pour le Brésil, c'est un juriste en phase avec sa politique environnementale, un homme largement critiqué par les experts et les militants. À Londres, la Chambre des Lords poursuit l'examen de la loi adoptée à la Chambre des communes, un texte qui prévoit d'exclure une sortie de l'Union européenne sans accord. Il va donc à l'encontre de ce que souhaitait Boris Johnson, le Premier ministre britannique. Le gouvernement de Boris Johnson a menacé d'obstruction, mais il a finalement changé de tactique hier et décidé de permettre une adoption rapide de cette loi afin de pouvoir ensuite organiser des élections anticipées dans le pays. L'épisode, toutefois, a laissé des traces pour Lord Peter Ricketts, ancien ambassadeur britannique en France. Boris Johnson a perdu un peu plus de crédibilité.
Face au Parlement, il perd les points importants et sur le style et sur la substance. Ça pose des questions sur sa capacité de rassembler le pays après une élection. Ce pays a besoin de rassemblement, de se calmer, de retrouver notre sang-froid, notre pragmatisme qui est notre image de marque un peu comme britannique. Mais je ne suis pas certain que Boris Johnson, vu sa première semaine ici à Westminster, est nécessairement la personne qui puisse faire ça pour nous. Surtout après un Brexit qui va être dur et difficile, quelle que soit la manière. J'entendais Boris Johnson avec sa première discours de campagne à Wakefield dire « Tout le monde veut qu'on finisse avec cette question de Brexit. Mais le départ de l'Union européenne sera le début du reste. Ça va continuer. » les négociations avec l'Union européenne, ça va continuer pour des années à venir. Et les gens ne sont pas prêts pour ça ici. Personne ne les a dit que le 31 octobre ou toute autre date n'est pas le fin, c'est le début.
Des propos recueillis à Londres par Marie-Pierre Véraud. C'est le premier gouvernement au Soudan depuis la chute en avril dernier du président Omar el-Béchir. Il a été dévoilé hier par son chef Abdallah Hamdok et ce gouvernement est donc composé de 18 membres, dont 4 femmes, parmi lesquelles la future ministre des Affaires étrangères. Les États-Unis et la rébellion chiite ont débuté des pourparlers au Yémen. C'est la première fois que de tels contacts sont annoncés officiellement. Washington, rappelons-le, est un puissant soutien de la coalition arabe qui intervient depuis mars 2015 dans la lutte contre les Houthis. La nature des discussions engagées n'a toutefois pas été précisée, Nabila Hamel.
Nous avons des pourparlers dans la mesure du possible avec les Houthis pour essayer de trouver une solution négociée, mutuellement acceptable. Celui qui a officialisé ces contacts est l'assistant du secrétaire d'État américain pour le Moyen-Orient. Il s'exprimait lors d'une visite en Arabie Saoudite. Cette annonce intervient alors que les Houthis ont multiplié ces derniers temps les attaques de missiles et de drones contre l'Arabie Saoudite voisine et au moment où une autre guerre s'est déclarée entre séparatistes et loyalistes à Aden, dans le sud du pays. François Frison-Roche, spécialiste du Yémen.
Les Américains doivent sentir que ce conflit yéménite est en train de prendre une dimension incontrôlable. Annoncer publiquement qu'ils vont prendre langue avec les rebelles houthis, c'est d'une certaine façon satisfaire les houthis puisqu'ils reconnaissent une certaine visibilité. Ils veulent certainement se réimpliquer dans le dossier et donc, d'une certaine manière, participer à sa résolution et faire pression sur les principaux intervenants dans ce dossier, c'est-à-dire l'Arabie Saoudite. Et puis, voilà, les Américains se disent, peut-être finalement, il y a des choses qui sont parfaitement négociables.
Et selon le Wall Street Journal, Washington cherche à inciter Riyad à prendre part à ses pourparlers avec les Houthis. À la manœuvre, il y a Christophe Hanzel, diplomate américain, nommé ambassadeur au Yémen en avril dernier.
Merci, c'était Nabila Hamel. L'ouragan Dorian, toujours classé en catégorie 2, poursuit sa lente remontée sur la côte est des États-Unis. Des habitants de la Caroline du Nord, notamment menacés par des inondations, dorment en ce moment dans des dortoirs. Aux Bahamas, que Dorian a ravagé il y a quelques jours, le bilan provisoire a encore grimpé pour atteindre 30 morts. Aigle Azur suspend tous ses vols à partir de ce soir minuit. La compagnie aérienne française précise également qu'elle ne pourra pas dédommager dans l'immédiat ses clients. Elle doit trouver un repreneur d'ici à lundi pour ne pas être placée en liquidation judiciaire. Le spécialiste des liaisons vers l'Algérie emploie plus d'un millier de personnes. Le ministre des Comptes publics, Gérald Darmanin, a estimé hier que 130 000 foyers fiscaux allaient connaître cette année une hausse de leurs taxes foncières. La faute à une révision de la valeur locative de leur propriété et cela représente 0,3% des contribuables selon le ministre qui veut donc relativiser cette augmentation. Gérald Darmanin qui annonçait aussi hier une expérimentation. À partir du 1er juillet prochain, c'est-à-dire en 2020, les particuliers employeurs devraient pouvoir toucher leur crédit d'impôt chaque mois et non plus avec un an de décalage, Anne-Laure Jumet.
Cette année, avec le passage au prélèvement à la source, il y a eu 2 acomptes pour le crédit d'impôt lié à l'emploi à domicile. Une avance de trésorerie bienvenue mais qui ne résout pas tous les problèmes puisqu'il y a encore un décalage dans le temps entre le moment où on verse le salaire à son employé et le moment où on perçoit cette aide. Et bien demain, ce ne sera plus le cas puisque les particuliers employeurs pourront toucher le crédit d'impôt tous les mois et ça tombera donc en même temps que le versement du salaire à leur garde d'enfant ou leur femme de ménage. Alors ça se fera par étapes. D'abord une expérimentation dans 2 départements, Paris et le Nord, pour les personnes âgées et les personnes handicapées qui emploient quelqu'un à domicile. Ce sera ensuite généralisé en 2021 à ce même public, soit 1 million de personnes. Pour le reste, prudence encore sur le calendrier de l'extension à tous les particuliers employeurs. Ça pourrait être d'ici la fin du quinquennat. Satisfaction tout de même de la FEPEM qui représente les particuliers employeurs, sa présidente Marie-Béatrice Leveau.
C'est un phénomène structurellement très important pour le secteur parce qu'à la fois on doit rattraper des heures souvent non déclarées qu'on appelle au gris et puis également permettre à tous les nouveaux entrants, que sont en particulier toutes les personnes retraitées qui ont eu accès au crédit d'impôt il y a très peu de temps, d'avoir moins de crainte d'utiliser un emploi à domicile, parce que justement, il y aura moins de reste à charge et surtout moins de décalage, et que tout de suite, tous les mois, j'aurai ce crédit d'impôt qui me sera redistribué sur mon compte bancaire.
Et c'est un effort pour les finances publiques, estimé en 2021 à 900 millions d'euros.
Il n'a pas hésité à comparer sa situation judiciaire à celle de l'ancien président brésilien Lula, détenu depuis près d'un an et demi pour corruption. Jean-Luc Mélenchon continue sa tournée en Amérique latine. Le chef de file de la France insoumise était donc hier au Brésil, au sud de Sao Paulo. Il a rendu visite en prison à l'ancien dirigeant brésilien. Nous revenons en France pour quelques mots de la météo de ce vendredi, qui sera marqué par de nouvelles pluies sur le sud-est. Partout ailleurs, la plupart des régions conserveront un soleil généreux aujourd'hui, avec ce matin 16 degrés à Rennes, 17 à Paris-Strasbourg, 18 degrés à Bordeaux, 24 à Nice. Bonjour Jacques Meunier.
Bonjour Clara Lecoq-Réal.
Il est 6h40 et vous nous rejoignez donc pour votre journal des idées. Jacques, dans son dernier livre, Capital et idéologie, Thomas Piketty retrace l'histoire mondiale des inégalités ainsi que des théories économiques et politiques destinées à les justifier. L'ouvrage à paraître le 12 septembre prochain fait déjà l'objet de nombreux commentaires dans la presse.
Mais oui, Le Monde en publie de larges extraits et ouvre le débat. Affirmer que l'inégalité est idéologique signifie pour Thomas Piketty que le marché et la concurrence, le profit et le salaire, le capital et la dette sont des constructions sociales et historiques qui dépendent entièrement du système légal, fiscal, éducatif et politique que l'on choisit de mettre en place. Il y a donc toujours plusieurs voies possibles permettant d'organiser une société et les rapports de pouvoir et de propriété en son sein. Et en particulier à notre époque, certaines peuvent constituer un dépassement du capitalisme bien plus réel que la voie consistant à promettre sa destruction sans se soucier de ce qui suivra. L'économiste ne nie pas les réels progrès réalisés en termes de santé, d'éducation et de pouvoir d'achat au cours des trois derniers siècles, mais il relève aussi d'immenses inégalités et fragilités. En 2018, le taux de mortalité infantile avant un an était inférieur à 0,1% dans les pays européens, nord-américains et asiatiques les plus riches, mais ils atteignaient quasiment 10% dans les pays africains les plus pauvres. Le revenu moyen mondial atteignait certes 1000 euros par mois et par habitant, mais il était d'à peine 100-200 euros par mois dans les pays les plus pauvres et dépassait les 3-4 000 euros par mois dans les pays les plus riches, voire davantage dans quelques micro-paradis fiscaux que d'aucuns soupçonnent, non sans raison, de voler le reste de la planète. Fin de citation. D'où la leçon à retenir. Le progrès humain n'est pas linéaire et l'on aurait bien tort de faire l'hypothèse que tout ira toujours pour le mieux et que la libre compétition des puissances étatiques et des acteurs économiques suffirait à nous conduire, comme par miracle, à l'harmonie sociale et universelle. Le progrès humain existe, mais il est un combat qui doit notamment s'appuyer sur une analyse raisonnée des évolutions historiques passées avec ce qu'elles comportent de positif et de négatif. Et par exemple, l'abolition de l'esclavage dans les colonies françaises et britanniques fut un moment essentiel du progrès humain, mais l'idéologie de la propriété privée eut pour conséquence ce qu'on jugea indispensable de dédommager les propriétaires et non pas les esclaves. Dans les mêmes pages idées du Monde, James Galbraith, lui-même auteur de nombreux travaux sur les inégalités, estime que Thomas Piketty a fait l'impasse sur les confrontations idéologiques contemporaines et les sources non occidentales. Sur l'Inde, par exemple, le chapitre s'inspire d'ethnographies remontant aux années 1880, d'observateurs de l'Empire britannique colonial et s'intéresse essentiellement au système des castes. Il manque ainsi le rôle clé joué par le capitalisme commercial dans la colonisation britannique. L'économiste fustige une vision du monde manifestement allergique aux grandes traditions occidentales de l'économie politique, sans parler de celles qui ont émané de Russie, de Chine, du Japon, d'Amérique latine ou d'Afrique lors des luttes idéologiques autour du capital et du capitalisme au cours des deux derniers siècles. Thomas Piketty s'est livré à l'Obs, où il évoque notamment la dernière partie de son livre, celle des propositions pour réduire les inégalités. La participation accrue des représentants des salariés au conseil d'administration des grandes entreprises, comme en Allemagne, a permis qu'il y ait moins d'excès qu'ailleurs quant à la fixation des salaires des dirigeants. Il suggère de revenir à la progressivité de l'impôt tel qu'il avait été instauré après la Première Guerre mondiale dans la plupart des pays industrialisés et qui avait atteint au cours des 30 glorieuses pour les tranches supérieures ailleurs, des niveaux très élevés, jusqu'à 90% aux États-Unis, sans que cela bride la croissance, bien au contraire. Il conseille également de rétablir l'ISF avec progressivité. Tout cela pour rétablir une redistribution équitable, car il estime par exemple que la division par deux de la croissance depuis les années 1990 est due en grande partie au sous-investissement dans l'éducation. Je cite, « Les dépenses d'éducation ont stagné dans tous les pays développés alors que le nombre d'étudiants a fortement augmenté. En France, le budget de l'enseignement supérieur est de 10 milliards d'euros. Si on avait ajouté les 5 milliards d'euros de l'ISF, l'impôt sur la fortune, on aurait pu inverser la chute dramatique de l'investissement par étudiant. » Alternatives économiques publie un dossier sur les 7 péchés du capitalisme. Dégradation de la planète, rente, atteinte à la santé, travail à la tâche, monopole, culte de la croissance et inégalité. Au niveau mondial, le 1% des plus riches a capté deux fois plus de richesses que la moitié de la population la plus pauvre. Dans la tradition chrétienne, les 7 péchés capitaux sont dits cardinaux parce qu'ils entraînent tous les autres. Vous écoutez France Culture, il est 6h45, c'est l'heure des enjeux internationaux avec vous Julie Gacon, bonjour.
Bonjour Jacques Munier, bonjour à tous.
Au sommaire aujourd'hui, donc les Russes votent dimanche à des élections locales et vous resserrez la focale sur le Parlement de Moscou.
Oui, vu d'ici ça peut paraître anecdotique, le renouvellement de la Douma de Moscou qui élit ensuite le maire de la capitale russe est en réalité un scrutin important. D'abord parce que ce Parlement russe a le pouvoir de métamorphoser la mégalopole et la ville a beaucoup changé en quelques années. Ensuite, et surtout parce que l'opposition n'aura pas réussi à présenter des candidats cette année, ni à Moscou, ni à d'autres scrutins locaux d'ailleurs. Des dizaines de candidatures ont été invalidées, ce qui avait déclenché de grandes manifestations cet été. Manifestations suivies de très près par Vladimir Poutine, 2700 interpellations en un mois et demi, preuve que le pouvoir en place ne prend pas ses élections à la légère. Bonjour Anastasia Shaposhkina.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes maître de conférence en géopolitique à Sciences Po Paris, spécialiste de l'Europe et de la Russie. D'abord un zoom avec vous sur ce Parlement de Moscou qui existait sous une autre version de la fin du 19e siècle jusqu'à la chute de l'Empire russe en 1917, remplacé sous le régime soviétique par un conseil des députés du peuple. La Douma de Moscou d'aujourd'hui, elle existe depuis les années 90. Alors à quoi ressemble-t-elle et à quoi sert-elle ?
Le Douma de Moscou, c'est un conseil municipal. Il y a 45 délégués qui sont élus pour un mandat de 5 ans.
Et aujourd'hui, il y a des délégués d'opposition ?
Il y a la majorité, donc sur 45, il y a 28 délégués de la partie Russie Unie, qui est le parti du gouvernement. Après, il y a 7 délégués de l'opposition systémique, donc les communistes, les libéraux démocrates.
Qui sont acceptés par
qui sont acceptés donc par le régime. Et ensuite, 10 candidats indépendants, y compris les candidats qui soutiennent le régime. Et parmi eux, il y a 2-3 candidats qu'on peut dire l'opposition non systémique.
Donc 45 personnes qui gèrent un budget de l'équivalent de 35 milliards d'euros, avec notamment le pouvoir de décider d'énormes chantiers. Et tous ceux qui connaissent Moscou disent que la ville a énormément changé ces dernières années.
Énormément changé, l'ouverture des nouveaux parcs, des créations des espaces piétons, vraiment l'européisation, on peut dire, de la ville dans le sens de l'espace pour la voiture versus l'espace pour le piéton. Beaucoup de redécoration sur la ville. Et pour ça, le maire avait reçu beaucoup de d'éclats, on peut dire, positifs avant toutes ces manifestations et ces réactions.
Le maire Sergueï Sobyanin. Alors, ces manifestations, elles sont dues au fait qu'à la mi-juillet, la commission électorale a rejeté les candidatures. Alors, selon les sources, on lit 27 ou 57 personnes de candidats indépendants.
Autour de 56 personnes.
56 personnes, dont des candidats de l'opposition à Vladimir Poutine officiellement pour vice de forme. Alors que, si j'ai bien compris, ils avaient tous récolté le quorum de signature de soutien dans leur circonscription.
Le quorum de signature a été fixé quand même assez haut. Donc, il fallait que chaque candidat récolte 3% de signatures de 3% de ses électoraux potentiels.
C'est un seuil qui a été augmenté d'ailleurs récemment. Ça devait être 0,5%. Aujourd'hui, c'est 3%.
C'est 3%, exactement. Et donc, ça arrive comme ce sont des élections par, on peut dire, arrondissement. Donc, ça arrive vers 5000, entre 5 et 5000 personnes par candidat. C'est-à-dire très dur quand même pour des candidats qui ne sont pas donnés vraiment l'accès aux médias ni rien, de lever ce nombre de signatures. Et chacun d'eux a réussi à le faire. Donc, ils ont vraiment, même on peut dire, utilisé cette barrière d'accès aux élections comme un levier même, on peut dire, pour accéder ensuite aux électeurs. Donc, ils ont vraiment déclenché la véritable campagne électorale, même avant que les élections ont commencé.
Sauf que la commission électorale a dit non, vice de forme. Alors par exemple, pour certains, c'était des signatures qui, d'après la commission électorale, étaient illisibles. Et d'autres, alors à Saint-Pétersbourg, par exemple, des candidats avaient traversé à des passages piétons, mais hors des clous. Et ça, donc, ils ont été invalidés.
Il y avait beaucoup de candidats qui ont été validés à Saint-Pétersbourg. Et donc, il n'y a pas que...
Parce que c'est un crime de traverser hors des clous en Russie.
Ou pas? Non, pas forcément. Et après aussi, à Saint-Pétersbourg, ce qui était aussi... À Saint-Pétersbourg, c'était 244 candidats d'une partie, donc qui est plus une partie, c'est une fraction, donc politique oppositionnelle depuis assez longtemps, donc Yabloka, ont été disqualifiés sur 550 candidats qui se sont présentés. Mais le plus curieux, c'était aussi, c'est un autre phénomène qui s'est manifesté à Saint-Pétersbourg, même dans le cadre de ce qui s'appelle opposition systémique, donc l'opposition qui soutient le régime, comme les communistes. Un candidat qui s'est présenté pour la position du maire de Saint-Pétersbourg, il a retiré sa candidature volontairement, entre guillemets, parce que les sondages ont montré qu'il a beaucoup plus de chances de gagner que le candidat de la Russie unie, juste pour laisser la place.
Laisser la place. Alors en ce qui concerne Moscou, l'historienne Galia Kerman sur cette antenne faisait cet été le lien entre les gros chantiers de la capitale russe et les rejets de candidature, en remarquant que ces personnes qui se sont vues refuser la candidature aux élections sont tout ou presque liées à des organisations anti-corruption. Et notamment, disait-elle, la corruption est très présente sur les chantiers.
Bien sûr.
Et c'est le cas pour tous ceux qui ont été rejetés. Ils sont tous liés à des fonds anti-corruption ou des...
La corruption est très présente dans tous les chantiers. Et ce phénomène a été notamment révélé par le fonds de Alexei Navalny, qui est aujourd'hui, on peut dire, la personne qui incarne l'opposition non systémique. Il y a d'autres personnes autour d'Alexei Navalny qui participent dans son fonds, notamment un des leaders de ces manifestations, Lubov Sobol, qui a mené aussi le grève de faim.
Une avocate de 31 ans.
Exactement.
Dont la candidature a été refusée.
A été refusée. Et donc ça, c'est vraiment on peut dire une main droite d'Alexei Navalny qui n'a pas pu lui-même donc se présenter dans ces élections. Et ensuite, il y a aussi les candidats de l'opposition non systémique qui existaient bien avant Navalny. Par exemple, il y a Yashin qui a été déjà membre du conseil municipal de Moscou avant et qui est dans l'opposition depuis une quinzaine d'années.
Il y a Yashin qui passe la majorité de son temps en prison d'ailleurs.
Oui, exactement. Donc là, la tactique des pouvoirs, c'est comme ils ne peuvent pas vraiment leur mettre en prison pour un crime, ces gens-là. Donc, ils les interpellent pour 15 jours, donc le maximum possible, ou pour 30 jours, notre maximum possible, selon l'infraction. Et ensuite, ils renouvellent ces interpellations, ce qui a comme résultat que le candidat, il ne peut plus organiser ses troupes, il ne peut plus organiser une manifestation, et donc il est toujours derrière les barreaux, même s'il n'y a pas vraiment une décision judiciaire.
Alors certains opposants très alertes sur les réseaux sociaux, très forts aussi en communication sur leur propre personne, il faut le dire, appellent aujourd'hui au vote intelligent. Mais qu'est-ce que c'est selon eux le vote intelligent pour dimanche ?
Donc là, il y a trois possibilités qui sont donc recommandées comme une stratégie par les leaders de l'opposition. La première possibilité, c'est aller et dommager son bulletin de vote. Ça ne va pas résulter en grand-chose.
L'endommager, l'abîmer, faire en sorte qu'il ne soit pas...
Exactement, on peut le déchirer, on peut écrire quelque chose, je proteste là-dessus. Voilà. Ça, c'est l'invalide, donc ce bulletin de vote, mais ça n'a aucun impact sur les élections, sur le résultat. Donc ça, c'est vraiment, on peut dire... d'une sorte, vous gâchez votre vote. Deuxième recommandation, c'est de voter pour n'importe quel candidat qui n'est pas le candidat de la Russie unie.
Et du parti de Vladimir Poutine.
Exactement, donc d'une sorte de empêcher ce parti de venir au pouvoir, sachant que, autant que le vote est fait, aussitôt que le vote est fait, ces candidats-là, s'ils font partie de l'opposition systémique, vont s'allier avec le pouvoir. Donc, et troisième position, c'est de voter pour les candidats qui restent, qui vont se proclamer en soutien pour la libération de tous ces gens-là qui ont été arrêtés, donc 2700 personnes en tout, donc qui ont été arrêtés, y compris des gens qui n'avaient rien à voir avec les manifestations ou qui ont manifesté pour la première fois dans leur vie, les gens qui sont étudiants, les gens qui ont 14 ans, 17 ans aussi, y compris. Et donc les candidats qui s'expriment clairement pour ces gens-là, c'est eux qui doivent être soutenus.
Ces candidats de l'opposition qui disent que ce plan est censé ruiner les plans électoraux de Russie unie et lui saper le moral. Mais pour conclure, Anastasia Shaposhkina, le fait que le pouvoir en place ait procédé à 2700 interpellations cet été, est-ce que ce n'est pas déjà une preuve que le régime est sur le qui-vive de refuser des candidatures à tour de bras? C'est aussi un signe de fébrilité, davantage qu'un signe de toute puissance.
Bien sûr. En plus que cette même tactique a été employée partout en Russie, en plus que les supporters d'Alexei Navalny ont réussi de lever quand même les manifestations dans 40 villes en travers de la Russie cet été autour de la même problématique. En plus que de plus en plus, donc au fur et à mesure de ces manifestations, les gens ont commencé à sortir aussi en réaction à la violence des forces de l'ordre et pas seulement à cause de cette raison initiale des manifestations. Et ce qui est un résultat, maintenant, on voit que le taux de popularité de Vladimir Poutine, qui a déjà été autour de 40% en début août aujourd'hui, est estimé à 32%. Vraiment, très petit taux de popularité pour un autocrate.
Et d'ailleurs, j'avais cru comprendre, toute dernière question, que en fait, il n'y avait pas de candidat sous l'étiquette vraiment Russie unie, parce que c'était aujourd'hui signe de...
Il y a beaucoup de candidats qui se retirent effectivement de la Russie unie, de ce ticket-là, parce que la Russie unie, elle est déjà complètement dans le chou depuis un moment.
Elle est impopulaire.
Et ils sentent qu'ils vont avoir plus de chances de gagner comme les indépendants.
Merci beaucoup Anastasia Shaposhkina d'avoir été avec nous ce matin.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
Chaque samedi sur France Culture à 11h, Affaires étrangères par Christine Ockrent.
Tout va si vite. Comment comprendre les palpitations d'un monde où tant de protagonistes interviennent et plus seulement les États, où tant d'enjeux s'entrechoquent, où tant de progrès et de reculs s'entremêlent? Plus que jamais, écoutons les meilleurs experts en France et ailleurs.
Affaires étrangères, tous les samedis à 11h et sur franceculture.fr.
Bienvenue sur France Culture. Si vous venez de vous réveiller, il est 6h57. Bonjour Guillaume Herner.
Bonjour Julie Gacon.
C'est à vous maintenant, hein, il faut vous réveiller un petit peu.
Donc, je vous adresse un salut fraternel ainsi qu'aux auditeurs, alors Julie Gacon.
Alors, c'est votre humeur du jour, Guillaume Herner. Pourquoi trébuchez-vous sur des trottinettes électriques?
Eh bien, à cause de la bourse. Je sais, c'est pas évident à comprendre, mais c'est pourtant la vérité. Celle que le New York Times explique depuis le Festival mondial du transport à San Diego aux États-Unis. Ça existe. Alors, on va commencer par le commencement. La trottinette électrique est la 8e plaie d'Égypte, à ceci près qu'elle frappe désormais un peu partout dans le monde, alors principalement dans les grandes villes. Celui qui n'a jamais redouté recevoir en pleine face une trottinette électrique tremble à coup sûr à l'idée d'en renverser une. Plus personne ne sera en sécurité sur la Terre tant qu'il existera une trottinette électrique. Et on a raison d'avoir peur. Sur 100 000 trajets en trottinette électrique, on compte 20 estropiés ou morts, ce qui est une statistique, ma foi, considérable. Pourtant, les trottinettes se reproduisent encore plus vite que les sauterelles. Aujourd'hui, on en compte par exemple quasiment 50 000 à San Diego aux États-Unis, une ville d'1,5 million d'habitants, autrement dit quasiment une trottinette pour 20 habitants. Vous imaginez savoir pourquoi? Pour que les compagnies de trottinettes gagnent de l'argent? Eh ben pas du tout. Ça, c'est très ringard hein, comme perspective, très vieille économie. Les compagnies de trottinettes savent fort bien qu'elles ne gagneront jamais un rond. Pour vous la faire courte, elles en sont empêchées par le simple fait que la trottinette, exposée à différents aléas, de la destruction au vandalisme, la trottinette sera arrachée à notre affection bien avant d'être amortie. Donc, ça n'est pas les compagnies de trottinettes qui vont gagner de l'argent. Alors, je dois aussi vous préciser que ce ne sont pas les salariés et des compagnies de trottinettes, d'abord parce qu'ils ne sont pas salariés, mais employés comme sous-traitants, les juicers, comme on les appelle, ceux qui sont chargés de recharger les trottinettes, sont payés au lance-pierre et il peut tout leur arriver, sauf de devenir riches. Non, les seuls qui peuvent espérer quelque chose, ce sont les actionnaires de ces sociétés. Lime, l'une des sociétés les plus nuisibles, est ainsi valorisée en bourse 2,4 milliards de dollars, alors que ses pertes ressemblent aux chutes du Niagara et qu'elle n'a absolument aucun espoir de gagner jamais un rond. La trottinette est peut-être le signe le plus évident que le capitalisme roule comme une roue carrée. Ce système a pire qu'un petit vélo dans la tête, une trottinette sur le trottoir.
Les matins de France Culture, 7h-9h, Guillaume Erner.
Et aujourd'hui, nous recevons Muriel Pénicaud, ministre du Travail. Elle sera dans ce studio aux environs de 7h40, avec de nombreux dossiers dont nous pourrons parler avec elle, la réforme de l'assurance chômage, la réforme des retraites, une rentrée sociale qui s'annonce déjà tendue alors que le deuxième cycle de concertation sur le futur système universel de retraite bat son plein. À Matignon, nous verrons avec elle quelles vont être les principales orientations en matière de réforme, notamment vis-à-vis de l'égalité salariale, avec de nouvelles annonces dans quelques instants de la part de la ministre. En attendant, eh bien, il est 7h sur France Culture.